Et si on en parlait ? Du temps, de l'information, des explications. Une émission présentée par Alexis Bachelet.
Vous êtes sur Radio Orient, dans l'émission « Et si on en parlait ?». C'est notre cinquième émission consacrée aux enjeux des élections municipales, en partenariat avec Arnaud Benedetti, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire.
Bonjour.
Que je salue, qui est à nouveau parmi nous. La semaine dernière, il avait été remplacé, mais cette semaine, il est avec nous. Avec Arnaud Benedetti, nous allons interroger le député européen nouvellement en fonction, on va dire.
Exactement.
Vous étiez sur la liste supplémentaire. Suite au Brexit, vous êtes rentré au Parlement européen. Jeanlin Lacapelle.
Bonjour.
Également membre du bureau national du Rassemblement national. Et donc, on va vous interroger sur ces élections municipales qui, jusqu'à présent, sont assez peu favorables pour le parti de Marine Le Pen. Je crois que vous avez 11 municipalités sortantes. Et ma première question, c'est quels sont vos objectifs en matière de conquête ?
Alors, nous avons 11 grandes municipalités sortantes, en effet. Mais nous avons beaucoup de maires. Marine Le Pen a recueilli 500 signatures de maires, notamment dans le cadre de sa candidature à la dernière élection présidentielle. Et nous avons beaucoup de délégués départementaux, Nicolas Bertin dans l'Aisne, par exemple, Raymond Herbreteau dans l'Orne, qui sont maires de communes. Donc on a beaucoup de maires. En revanche, de grandes villes, en effet, ça n'a jamais été une élection de prédilection dans le passé. Mais, vous le savez, nous avons donc 11 municipalités dans lesquelles la gestion municipale semble très bien se passer, puisqu'il y a eu un sondage d'opinion il y a quelques semaines qui disait que 72% des administrés étaient contents de la gestion municipale menée par les candidats, par les maires du Rassemblement national. Et je pense que nous gagnerons et que nous reconduirons l'ensemble de ces municipalités. Il y a eu un sondage dernièrement à Hénin-Beaumont qui donnait Hénin-Beaumont à 60%. Vous avez vu Béziers hier avec un sondage à 65%. Mais je crois qu'également Julien Sanchez à Beaucaire gagnera au premier tour. David Racheline gagnera et regagnera Fréjus et ainsi de suite. Donc je crois que les administrés dans les municipalités qui sont les miennes sont contents. Et c'est finalement un très bon tremplin, c'est une vitrine, une démonstration aussi pour que nous puissions conquérir de nouvelles municipalités. Et il y aura de nouvelles surprises, j'en suis persuadé. Et qu'il y aura de très belles victoires lors du prochain scrutin.
Alors, une question justement sur aujourd'hui, dans les relations du Rassemblement national avec l'ensemble des autres forces politiques de droite. On a vu que la transformation du Front National en Rassemblement national était aussi un objectif de changer peut-être d'image et de perception que l'opinion publique peut se faire du Rassemblement national. Mais finalement, vous avez eu assez peu de prises pour l'instant d'élus républicains ou d'élus divers droites qui vous auraient rejoint ou qui auraient monté des listes d'union avec vous ?
Non. Alors, il y a des listes communes que nous sommes en train de constituer. Louis Alliot, par exemple, en constitue une à Perpignan. Et je dînais avec lui hier soir, nous en parlions. C'est une grande liste d'ouverture qu'il est en train de mettre en place. Et je crois que Louis Alliot sera le prochain maire de Perpignan. Il y a également le général de la Chesnée à Carpentras, dans le Vaucluse, mais également à 7, où l'ancien délégué départemental des Républicains nous a rejoint. Et a quitté les Républicains, nous a rejoint, et constitue une liste avec nos candidats, et avec une partie des Républicains, bien évidemment, une grande liste commune. Tout cela fait partie de ces ralliements que nous avons. Lorsque le Front National a changé de nom lors du dernier congrès, et lorsque Marine Le Pen a souhaité rebaptiser le mouvement Rassemblement National, ça n'était pas un vain mot, il y a eu des ralliements. Et la liste des élections européennes dernières en est un exemple. Hein. J'étais hier donc au Parlement européen à Bruxelles avec Thierry Mariani, ancien ministre de Sarkozy, avec Jean-Paul Garot, ancien magistrat, député UMP, avec Jérôme Rivière qui était député sous Sarkozy et qui est responsable de la délégation française au Parlement européen. J'étais avec un de nos collaborateurs, André Cotarac, qui est un ancien de la France insoumise, qui d'ailleurs est tête de liste dans la communauté urbaine de Lyon. Donc nous avons aujourd'hui un rassemblement qui s'effectue, énormément de gens qui se rallient à nous, et nous sommes le premier parti de France, je le rappelle. L'élection européenne dernière, malgré 35 listes, a réussi à nous porter en tête de l'ensemble des suffrages. Donc nous sommes bien le sans aucune alliance, finalement, le premier parti politique de France. Et puis, il s'avère qu'il y a des élections locales, comme celles municipales, où la personnalité est importante, hein, aussi, la personnalité locale est importante. Et bien, nous arrivons aujourd'hui, petit à petit, à nous enraciner. Et c'était un des fondements ou un des objectifs principaux de Marine Le Pen, qu'il avait dit, il faudra qu'on s'enracine localement, car les maires de demain et les élus municipaux de demain seront les candidats des élections régionales, des élections départementales, car nous pensons qu'en 2021, nous gagnerons des départements et des régions.
Vous fixez un objectif quantitatif quand même, en termes de conquête de mairie ?
Non. Non, parce que c'est très difficile de fixer un objectif quantitatif sur une élection municipale aussi complexe que celle-là, dans son mode de scrutin d'une part, d'autre part dans l'importance et la sensibilité de la personnalité qui se présente, et troisièmement dans l'inconnu du scénario du second tour. Duel, triangulaire, quadrangulaire. Et tant que vous n'avez pas toutes les données de cette équation, vous êtes incapable de savoir ce que vous gagnerez. Donc je crois que nous allons peut-être avoir des déceptions, je ne le sais pas, mais en revanche nous aurons beaucoup de surprises. Beaucoup, beaucoup de surprises, et de très bonnes surprises. On a gagné, vous savez, Mantes-la-Ville sur une quadrangulaire, hein, par exemple. Fréjus sur une triangulaire. Écoutez, je crois que ces villes-là, on les gagnera sur des duels maintenant, voire au premier tour. Hein. Ce sera le cas de Beaucaire, j'en suis convaincu. Dénain-Beaumont avec 60% des suffrages, je le disais tout à l'heure. Donc nous conserverons nos villes. Maintenant, il faut en conquérir une nouvelle. Eh bien, voilà, on a un certain nombre d'idées dans le Gard, dans le Var, dans le Pas-de-Calais, dans le Nord, de villes qui pourraient, bien sûr, basculer du côté du Rassemblement National.
Lesquelles, par exemple ?
Écoutez, Denain, je pense, avec, Sébastien Chenu, mais Nîmes peut tomber aussi. Un certain nombre de villes, vous savez, je crois qu'il est difficile d'énumérer l'ensemble des villes. Nous ne nous fions pas en revanche à la liste que les Républicains, pas les Républicains non, la République En Marche a voulu sortir parce qu'elle est assez amusante. Je crois qu'ils nous donnent 130 ou 137 victoires, dont Cannes où nous n'avons pas de candidat. Donc c'est une...
C'est un leurre de communication pour vous ?
Mais bien évidemment, je pense que c'est un leurre de communication. Ou alors c'est encore un défaut d'être de compétence, mais ils nous y ont habitués depuis déjà 2 ans et demi. Mais peu importe, nous gagnerons beaucoup de villes, bien sûr. Nous gagnerons beaucoup de villes, nous aurons de plus en plus d'élus, ce qui sera important parce que les élus sont des grands électeurs aussi pour les élections sénatoriales. Et comme je vous le disais, nous sommes sur un grand chemin électoral. Marine Le Pen l'a parfaitement expliqué dans son discours de rentrée à Fréjus dernier. Elle l'a répété l'autre jour lors de la convention municipale à la Maison de la Chimie. Voilà, c'est comme moi je suis un chasseur alpin, donc je sais ce qu'est cette métaphore, hein, mais c'est des mousquetons. Que vous portez hein, sur la face que vous êtes en train de gravir. Et puis, il y a l'ultime étape qui sera celle de l'élection présidentielle en 2022, qui sera donc l'Élysée. Mais avant, il y a, des scrutins électoraux qu'il ne faut pas qu'on rate. Et les départementales, comme les régionales en 2021, sont extrêmement importantes et elles seront stratégiques, bien sûr, pour l'ultime victoire.
Alors, vous le rappeliez dans des interviews, votre parti souffre d'un déficit d'ancrage local. Et en fait, vous avez parlé là d'un certain nombre de villes que vous espériez peut-être, où vous aspiriez à l'emporter. Néanmoins, on voit aussi énormément de communes où le Rassemblement National semble en difficulté pour monter des listes, pour trouver des candidats. Est-ce que vous avez fait un travail spécifique pour convaincre des gens de s'engager sur des listes dans des villes souvent de taille importante. Et je dirais même que plus les villes sont importantes, plus vous avez du mal parfois à monter ces listes.
Vous pourriez poser la même question à La République En Marche. Hein. se retrouve avec un déficit terrible, qui va avoir très très peu de listes, qui ne sait même plus comment faire. Et on pourrait prendre l'exemple du Premier ministre qui est En Marche, qui va se présenter au Havre, qui se fera remplacer par
un Républicain. Il n'est pas En Marche officiellement.
Il n'est pas en marche officiellement, mais enfin, ça va être comptabilisé comme En Marche. Oui. Il sera remplacé par un Républicain. Donc là, on est dans la bidouillerie et dans le calcul électoral.
Après, La République En Marche accorde des investitures à des maires sortants et ainsi évite d'avoir à se compter.
Ils ont
c'est pas votre cas.
Ils soutiennent sans. Alors, c'était. Alors, si on prend l'exemple d'Amiens, qui est quand même un exemple symbolique, hein, qui est quand même la ville. Du président de la République, donc ils ne soutiennent pas le candidat En Marche, ils soutiennent en revanche un candidat républicain ou une candidate républicaine. Bon, peu importe. Pour répondre à votre question, on n'est pas sur une course à l'échalote, hein, donc l'idée, ce n'est pas d'avoir des candidats partout. On a, je crois, dans le passé, couru après le quantitatif. Et on l'a reconnu.
Et vous l'avez regretté, des fois.
Et on l'a regretté, peut-être, oui, ponctuellement.
Vous avez eu quelques candidats qui ont fait des déclarations et vous avez été obligé
Mais dans tous les mouvements politiques, il y a des candidats qui font de mauvaises déclarations. Et il y a des exemples dans tous les mouvements politiques. La seule différence, c'est que nous les traitons, nous. C'est-à-dire qu'ils passent en conseil de discipline et ils sont sanctionnés immédiatement. C'est la différence qu'il peut y avoir avec d'autres partis politiques. Mais vous connaissez le proverbe de Charles Maurras, hein, là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Donc il a souvent été répété dans notre mouvement.
Je ne connaissais pas, mais...
Nous ne sommes pas infaillibles. Il y aura toujours des candidats qui, peut-être quelquefois, nous décevront et ne seront pas à hauteur des qualités que nous attendions. Peu importe. Nous ne sommes pas, comme je le disais, dans une course à la quantité, et nos commissions d'investiture se réunissent régulièrement. Lundi dernier, nous étions avec notre présidente en commission d'investiture, et on réunit, et on sélectionne ou on investit les candidats que nous estimons compétents et correspondent au profil que nous attendons, bien sûr, pour conduire une liste, pour mener le projet politique de nos municipalités, et capable aussi d'avoir une équipe. Autour d'eux, une équipe de gens et d'élus municipaux compétents, parce que ça n'est pas simple. Hein. Un maire n'est pas tout seul. Hein. Un maire, il lui faut autour de lui des adjoints au maire, et puis à qui il donne des délégations. Et puis ensuite, donc, une équipe municipale capable, bien sûr, de faire rayonner notre projet et qui sont les ambassadeurs de notre mouvement. Donc voilà, ce n'est pas simple, mais je crois que nous sommes de plus en plus... de plus en plus aiguisé à l'exercice et que nous sommes en train d'investir des candidats de grande qualité et qui seront demain des maires de grande qualité.
Venons-en à la gestion municipale par le Rassemblement National. C'est quoi la gestion municipale du Rassemblement National? Qu'est-ce qui vous différencie, in fine, des autres formations politiques dans votre approche du local?
Il y a deux choses. Il y a, d'une part, la forme, c'est-à-dire que nous présentons des engagements et nous les tenons. Et il n'y a pas un seul maire que vous prendrez à défaut aujourd'hui qui n'a pas tenu ses engagements. Ou alors, ils sont parfaitement expliqués, mais le programme est tenu. Et puis ensuite, il y a le fond, ce sont donc le projet que nous présentons. Nous avons, dans l'ensemble de nos projets municipaux en 2014, annoncé qu'aucun impôt ne sera augmenté dans les municipalités. Pas une municipalité a augmenté ses impôts, on a baissé, je dirais, nos impôts, c'est plutôt comme ça qu'il faudrait que je le formule, on a baissé nos impôts partout, sauf là où il y avait une dette importante, Fréjus. Donc pas d'augmentation d'impôts à Fréjus. Un tiers de la dette, qui était une des villes les plus endettées de France, hein, un tiers de la dette baissée, grâce à David Racheline, et aucun impôt augmenté. À Hénin-Beaumont, les impôts ont été baissés. À Beaucaire, les impôts ont été baissés, et ainsi de suite. Ça, c'est un sujet sur la fiscalité qui est extrêmement important, bien évidemment, et un engagement qui a été tenu. Il y a des engagements sur la sécurité aussi, qui ont été portés, exprimés par nos candidats. Je reprends le cas de Fréjus, hein, la police municipale a été multipliée par 3. Et les problèmes d'insécurité ont été régulièrement réduits. Il n'y a plus une voiture volée, Fréjus. Une voiture volée, brûlée, excusez-moi, pour cette erreur, mais pas une voiture brûlée. À Fréjus, il y a clairement une population qui vit parfaitement dans une communauté, quelles que soient ses origines. Il y a très peu de problèmes de sécurité, et là aussi, dans les différentes communautés, dans les différentes communes qui sont aujourd'hui dirigées par les maires du Rassemblement National, il y a des problèmes de sécurité qui ont été réglés. On a des problèmes autour de la propreté également, sur l'environnement, qui sont aussi des sujets sensibles, et il y avait eu une enquête, d'ailleurs, il y a quelques mois, qui était parue sur... la perception qu'avaient nos administrés dans nos villes, ils plaçaient assez haut, hein, dans leurs appréciations la propreté des villes. Donc c'est un sujet également qui est important. Et puis la culture. Quelquefois, on a une très mauvaise réputation sur la culture, mais allez à Fréjus. Hein, les programmes culturels ont été multipliés par 5, 6, 7, 8, 10 fois. Même Johnny Hallyday, avant qu'il ne nous quitte, dans les arènes, sur la base nature exactement, la base nature Fréjus, était venu, et j'avais assisté d'ailleurs à l'un de ses derniers concerts. Donc, il se passe beaucoup de choses. Les villes vivent, elles sont animées, elles sont réveillées, je pense, même quelquefois. Et puis surtout, il y a une gestion de père de famille qui se fait, pour ne pas dire de mère de famille, avec le jeu de mots qu'on pourrait identifier. Eh bien, je trouve que voilà, les engagements sont tenus et les administrés, ils sont contents. Et on a, je crois, depuis 5 ans, eu toutes les enquêtes inimaginables de la part de certains de vos confrères, des investigations, je peux vous dire, de la part de certains de vos confrères, pas toujours dans un très bon état d'esprit, qui ont été réalisées. Rien n'a été trouvé contre la bonne gestion de nos maires. Donc, c'est finalement une vraie satisfaction, et c'est un tremplin, je crois, une source de crédibilité pour en conquérir de nouvelles.
Bon, en même temps, c'est vrai que 11 municipalités de taille significative, c'est un petit panel pour se faire une idée. Vous avez parlé de la sécurité. Effectivement, c'est une préoccupation qui revient dans les enquêtes sur les sujets municipaux, locaux. La deuxième préoccupation, c'est la protection de l'environnement et plus globalement l'écologie dont on voit un petit peu. Et c'est pas forcément sur ce sujet-là qu'on vous attend, par exemple. Marine Le Pen, le Rassemblement National, n'a pas forcément un discours très offensif sur ces sujets.
Alors, dans ce que vous venez de dire, il y a deux questions.
Oui.
Je vais vous répondre sur la partie écologie. Mais juste avant, sur le nombre de municipalités que nous avons ou sur la représentation que nous pouvons avoir, je voudrais quand même rappeler aux Français que nous représentons 12 millions de Français, que nous sommes le premier parti politique de France, comme je le disais, et que nous avons 0,2% des parlementaires dans les institutions parlementaires en France, hein, entre les parlements et le Sénat. Donc, nous sommes le seul pays dans l'Union européenne à ne pas avoir le scrutin proportionnel sur les élections législatives. C'est absolument scandaleux quand on se dit dans un pays démocratique. Donc, c'est...
Alors là, pour le coup, on n'a pas le même problème aux élections municipales, parce que c'est un scrutin
je suis d'accord avec vous,
vocation proportionnelle.
Je tiens à le rappeler, mais quand Emmanuel Macron se dit tout de même le monsieur démocratie, quand il dit qu'il va apporter une banque de la démocratie, notamment dans le cadre de son programme, et ça avait été porté par Bayrou et que c'est abandonné, et notre présidente, sur une chaîne d'un de vos confrères, il y a quelques jours, disait qu'il se dit que même la dosette proportionnelle pour les législatives pourrait être abandonnée de la part du gouvernement.
Apparemment.
Si c'est le cas, c'est catastrophique. Mais c'est catastrophique et c'est une honte. Une honte, honnêtement, parce que si aujourd'hui on voit des millions de Français dans la rue, depuis le mouvement des Gilets jaunes et depuis le projet de réforme des retraites, si on voit autant de gens dans la rue, c'est parce qu'ils ne sont aujourd'hui pas représentés dans les institutions, c'est parce qu'il y a une colère qui gronde et parce que, bien évidemment, ils se sentent totalement en rupture aujourd'hui avec ceux qui les représentent dans les institutions. Ça, c'était le sujet, donc, on va dire, de la représentativité démocratique. Maintenant, sur l'écologie. Mais Marine Le Pen, on a toujours été dans une écologie, mais qu'on appelle le localisme. C'est-à-dire que nous sommes pour faire changer les règles. Nous sommes pour demain que nos municipalités, dans des marchés, dans des appels d'offres, sur des cantines scolaires, puissent privilégier les paysans du coin, puissent privilégier les entreprises du coin. Nous souhaitons la préférence ou la priorité nationale pour nos entreprises, pour notre agriculture. C'est ça, l'écologie, en grande partie. Plutôt que de faire venir, honnêtement, 80% de la viande dans les cantines scolaires est importée en France aujourd'hui. Ça n'est pas de l'écologie. Signer le traité de libre-échange du CETA avec le Canada, faire en sorte que 80% des appels d'offres, le Canada a le droit de participer à 80% des appels d'offres dans les marchés européens. Nous, Européens, nous avons le droit de participer à seulement 20% de leur marché d'appel d'offres. Alors là, vous savez, c'est donc totalement déséquilibré. C'est construit, moi qui ai bossé 26 ans dans les boîtes du CAC 40, et qui ai négocié avec la grande distribution, ce qui n'est pas ce qu'il y a de plus simple, je peux vous dire que c'est négocié par des gens qui ne savent pas négocier. Soit on fait un win-win, soit on fait du gagnant-gagnant, soit on a un accord en effet équilibré, soit on ne sait pas le faire. À ce moment-là, il faut laisser faire cela à d'autres gens. Mais le localisme, pour nous, c'est une écologie importante, c'est donc privilégier bien évidemment ce qui est fabriqué, ce qui est produit à côté et ce qui est à côté du lieu de consommation. C'est ça l'écologie.
Alors, on reprend la deuxième partie de l'émission dans un instant et on fait une courte pause.
Et si on en parlait ? Du temps, de l'information, des explications. Une émission présentée par Alexis Bachelet. Et si on en parlait ? Du temps, de l'information, des explications. Une émission présentée par Alexis Bachelet.
Vous êtes sur Radio Orient dans l'émission « Et si on en parlait ?» Deuxième partie de l'émission consacrée aux enjeux des élections municipales avec Arnaud Benedetti, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Et aujourd'hui, notre invité sur ce sujet, c'est le député européen Jeanlin Lacapelle, membre du Bureau national du Rassemblement national. Et nous l'avons interrogé, et peut-être une question d'Arnaud Benedetti.
Oui, alors une question pour articuler un peu le local et le national. On est dans un climat quand même aujourd'hui social un peu difficile pour la majorité. Est-ce que vous pensez que ce climat, cette ambiance nationale liée notamment au dossier des retraites et à bien d'autres dossiers, va constituer un facteur important lors de ces municipales, et est-ce que vous pensez éventuellement en profiter ?
Je ne sais pas. Une enquête dernièrement par la Sofrage, je ne sais plus, Ipsos, disait que certains électeurs comptaient sanctionner Macron à travers l'élection municipale. Cependant, je crois
aussi... C'est La République En Marche, votre adversaire principal ?
Non. Vous savez, je crois qu'il n'y a pas de République En Marche. Enfin, je crois qu'il y a deux blocs aujourd'hui. Il n'y a plus de droite et de gauche.
Il y a une majorité, quand même.
Oui, il y a une majorité, en effet. Mais... il y a une pseudo-opposition qui s'appelle Les Républicains ou le Parti Socialiste, mais c'est amusant, ils se soutiennent les uns les autres. Hein. Il y a la République En Marche soutient 110 têtes de liste républicains, 55 socialistes à aujourd'hui. Moi, je crois qu'il n'y a plus de droite, de gauche, et que tout... je ne dis pas que c'est la fin des partis, je dis qu'il y a deux blocs aujourd'hui. Il y a ceux qui veulent ouvrir la France au monde entier, ils sont parfaitement incarnés par Emmanuel Macron et par tous ceux qui suivent Emmanuel Macron, puis à ceux qui veulent un retour à un certain nombre de protections territoriales, identitaires, sociales, économiques. Et ceux-là, eh bien, je crois, sont incarnés aujourd'hui par le Rassemblement National. Et de plus en plus de gens, d'ailleurs, aujourd'hui, se rapprochent de nous et se rallient à nous. Et c'est ça, ces deux blocs qui se sont opposés aux deux dernières élections, présidentielles et européennes, et qui s'affronteront encore dans les prochains scrutins nationaux. Là, on est dans une élection municipale. Je crois que la personnalité du maire local dans les petites communes a son importance, bien évidemment, parce qu'il est connu, parce qu'il fait son boulot extrêmement bien. Et d'ailleurs, il est très souvent peu reconnu. Et c'est ce que nous souhaiterions, d'ailleurs, pouvoir revaloriser. C'était un des points du programme de Marine Le Pen dans le cadre de la présidentielle. Reconnaître ou revaloriser le mandat des petits maires. Maintenant, vous parliez de la crise sociale. Elle va avoir un impact, de toute façon, oui, indirectement. Elle va avoir un impact, si ce n'est pas dans le cadre des municipales, ce sera dans le cadre des élections de 2021, qui seront les élections départementales et régionales. On vit le chaos. On l'avait dit avec Marine Le Pen, ce sera la catastrophe, ce sera l'apocalypse, ce sera la fin du monde, ce sera l'invasion des sauterelles. C'est le chaos avec Emmanuel Macron. Le mouvement des Gilets jaunes s'est constitué de manière spontanée, de manière naturelle, et à travers une triple crise. Une crise sociale, une crise fiscale, une crise démocratique. Une crise fiscale, en effet, nous sommes le premier pays champion du monde en termes d'impôts, 48,3%. Rien n'a changé. Hein. Rien n'a changé. À la marge, rien n'a changé. On a toujours autant d'impôts, le pouvoir d'achat et les problèmes de pouvoir d'achat sont toujours aussi élevés. L'alimentaire a augmenté, les péages ont augmenté, les mutuelles ont augmenté, l'électricité a augmenté, les assurances ont augmenté. Tout a augmenté. Très bien. Et ça, c'est cette crise fiscale que traverse le pays. La crise sociale, 6 millions de chômeurs. Emmanuel Macron nous dit qu'il a créé 500 000 emplois, mais il en a supprimé combien ? On peut parler de la branche à Belfort de
Alstom,
qu'il a vendu. Il avait négocié, il était ministre de l'économie à l'époque, hein, il avait quand même négocié un plan de création de 1 000 emplois. ces 800 emplois qui ont été supprimés. Il a en plus nommé comme directeur général de la filiale son ancien conseiller au ministère de l'économie. On a vendu les chantiers navals, on vend des aéroports, on est en train de vendre un certain nombre de nos fleurons. Ça, c'est la politique d'Emmanuel Macron qui brade nos entreprises françaises et qui nous fait croire qu'il crée l'emploi. Vous prenez, et je prends au mot tous vos éditeurs, vous allez sur le site du ministère du Travail, vous recherchez le nombre de chômeurs, donc de demandeurs d'emploi, en juin 2017, au moment où Emmanuel Macron prend son mandat, sur les catégories A, B, C, D, E. Vous reprenez, et vous faites le même calcul, fin décembre 2019, vous avez 60 000 chômeurs en plus. Et on vous dit qu'aujourd'hui, le chômage baisse, parce qu'un mois, ça a baissé, parce qu'on a créé des emplois à droite ou à gauche, mais on en ferme combien à côté ? Ou on en supprime combien à côté ? Donc c'est une manipulation permanente. Donc on a toujours autant de chômeurs. Il nous avait dit qu'il n'y aurait plus personne qui coucherait dans la rue. C'était bien sûr un slogan et une manipulation. Il y a toujours autant de non-logés. Ils sont 4 millions aujourd'hui en France. Il y avait 9 millions de pauvres qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Il y en a 9 millions et demi. Il a donc augmenté 500 000 le nombre de mal-logés. C'est une catastrophe, Emmanuel Macron. Il a privilégié une toute petite élite, sa petite élite, celle qu'il a élue, celle des banques, celle des finances, celle du CAC 40. Moi, j'ai rien contre les voix du CAC 40. Je le disais tout à l'heure, j'ai travaillé 26 ans chez Danone, Cadbury, L'Oréal, avec des fonctions importantes. Et je crois que ces boîtes-là, on en a besoin parce qu'elles embauchent à peu près 25% de nos salariés en France. Mais on leur donne des subventions. On leur donne des subventions et elles continuent à délocaliser. Moi, je me souviens chez L'Oréal, de chaînes de production que nous fermions en France et que nous délocalisions en Pologne, à Varsovie, parce que, bien évidemment, le cahier des charges n'était pas le même et que la main-d'œuvre était beaucoup moins élevée. Ben, je ne trouve pas ça normal. Quand aujourd'hui, vous subventionnez des boîtes du CAC 40, il faut savoir leur dire, OK, moi, je vais vous aider à vous implanter, je vais vous aider à vous développer sur les territoires français, mais en revanche, pas de délocalisation. C'est ce qu'a fait Donald Trump quand il a été élu. Quand Ford a voulu partir au Mexique, il a téléphoné à Ford en disant « Ton usine au Mexique, c'est zéro, sinon je te coupe les vivres. » Alors, je le fais de manière un peu triviale, hein, mais c'est comme ça. C'est exactement comme ça. Eh bien, moi, je crois qu'on doit conduire un pays comme ça, pas comme une petite start-up où il faut en permanence rechercher la rentabilité dans les services publics, la rentabilité dans l'ensemble des actions économiques menées par le gouvernement. Aujourd'hui, un service public ne doit pas toujours être rentable. Un service public, il doit être à la disposition du public et notamment des Français. Voilà. Emmanuel Macron... Je terminerai mon propos parce que je sens bien que je suis long, mais je m'emporte, passionné par le combat politique qui est le mien. Mais quand Emmanuel Macron, le jour de son discours, à l'issue du mouvement des Gilets jaunes, enfin du grand débat, nous dit deux choses. Il n'y aura pas une école qui fermera d'ici la fin de la mandature en France. 400 écoles ont fermé dans les milieux ruraux. Et quand il regarde les Français dans les yeux en disant « il n'y aura pas un hôpital qui fermera d'ici la fin de la mandature », oui, il n'y a pas d'hôpital fermé, mais il a fermé des services d'urgence, des maternités, à Bernay, à Tonnerre, et ainsi de suite. Donc en fait, Emmanuel Macron est un grand manipulateur, et le dernier exemple, bien évidemment, les Français, je ne reculerai pas l'âge de départ à la retraite, oui, ok, enfin, je décale l'âge pivot. Donc en fait, je
crois que... Donc on comprend bien quand même à travers votre propos que votre adversaire, c'est Emmanuel Macron et la majorité.
Mais non, mais, nos adversaires, ce sont ceux qui sont au pouvoir. Ouais. C'est eux qui ont été...
Alors en l'occurrence, localement, il y a une pluralité de pouvoirs locaux.
Oui,
et très peu finalement qui correspondent à la tendance du président de la République. Moi, je voudrais revenir sur les... D'ailleurs, ça fait le lien avec ce que vous disiez sur les fermetures d'écoles et de services d'urgence ou de maternité. Ça correspond aussi à une réalité de l'aménagement du territoire et de la démographie, c'est qu'il y a des villes et des villages qui perdent des habitants. Énormément, de plus en plus. Et même parfois des villes importantes. Quand il n'y a plus de familles avec des enfants, les écoles, elles ferment. Il y a aussi une réalité démographique. Mais moi, je voudrais vous demander votre réaction sur une situation. Dans ces villes qui perdent des habitants, donc il y a des logements vacants, il y a des locaux, des anciennes écoles, etc. L'État, parfois, prend la décision de proposer au maire d'installer des centres d'hébergement pour les réfugiés ou les demandeurs d'asile. Un maire Front National, même s'il y a des logements vacants, même s'il y a des locaux disponibles, il refusera toujours l'accueil de migrants, de réfugiés, par principe.
Mais je crois que nous sommes... Je vous ai donné des chiffres. 6 millions de chômeurs, 9 millions de pauvres, 4 millions de mal logés. Mais je crois qu'il faut savoir s'arrêter.
Non, mais là, on parle pas de gens, on parle de demandeurs d'asile et de réfugiés. C'est-à-dire de gens qui ont fait un dossier, demande, et dans l'attente de traitement, il faut bien les loger quelque part.
Donc les deux,
et on les loge parfois dans des petits villages. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, mais parfois, ça redonne aussi, enfin, il y a une appréhension au départ, et puis finalement, quand les familles sont là, on voit que ça se passe bien.
Alors, les demandes d'asile, c'est 132 000, le dernier chiffre, hein, d'accord. Mmh. Il a augmenté de 6,7% en 2019. Il avait augmenté de 20% l'année d'avant. Et les demandes d'asile, il faut que les gens sachent que les trois premiers pays, quand même, demandes d'asile, c'est la Guinée, la Géorgie, la Côte d'Ivoire. D'accord? Qui ne sont pas des pays en guerre. 92% des demandes d'asile sont déboutées. Ils deviennent donc clandestins. Et c'est cela que vous voulez accueillir dans vos communes rurales?
Ah, mais moi, je suis pas maire. Donc, je vous pose la question. Vous êtes maire. Le préfet vous appelle, vous dit, voilà, j'ai 10 familles de réfugiés.
Eh bien, moi, je m'oppose au maire.
Est-ce que vous pouvez les accueillir dans votre commune?
Mais je m'oppose au préfet.
Par principe, c'est non.
Je m'oppose au préfet. Mais si vous faites un référendum dans la commune dans laquelle vous voulez installer le centre d'accueil, je peux vous dire que l'ensemble, mais la majorité, bien évidemment, des habitants, vous direz non. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on impose
ça,
cela.
Ça reste à voir, mais dans des communes où ça arrive, ça se passe en général pas mal.
Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour nos communes aujourd'hui? C'est se battre contre la désertification.
Mais comment vous faites, je parle
de la grande distribution.
Les entreprises ferment, délocalisent.
Pourquoi elles ferment, les entreprises? Moi, je vous l'ai dit, j'ai travaillé dans la grande consommation. Mes clients étaient la grande distribution. Alors, ceux qui vont m'écouter vont se dire, mais il est vraiment un adversaire de la grande distribution. Non. Il y avait à l'époque une loi qui s'appelait la loi Raffarin, qui gelait l'agrandissement et les ouvertures.
C'est vrai.
Sarkozy, avec la loi, la LME, la loi sur la modernisation de l'économie, a supprimé cette loi. Aujourd'hui, vous ouvrez et vous agrandissez ce que vous voulez. Il y a une association.
Donc, on arrête le développement des nouveaux centres
commerciaux. Il y a une association qui s'appelle En toute franchise, qui est extraordinaire, qui vient de démontrer qu'il y a 348 milliards de fraudes ou d'amendes non payées par des hypermarchés, supermarchés qui agrandissent et qui ouvrent avec l'autorisation du maire, bien évidemment, hein, mais sans l'autorisation départementale. C'est un scandale. Eh bien, je connais bien Marignane, j'étais candidat lors de l'élection législative dernière. Eh bien, ça vous tue les centres-villes, ça vous tue les commerçants. Et dans les communes, on perd nos tabacs, on perd nos boulangeries. Moi, je suis de Bergerac, mais à côté de Bergerac. Il y avait...
Dordogne.
Ouais, en Dordogne, exactement. À côté de Moulédier, il y a 5 boulangeries qui ont fermé. 5 boulangeries qui ont fermé les 2 dernières années à cause d'une grande enseigne de boulangerie qui s'est ouverte sur la galerie marchande d'un Intermarché. À Creys, exactement. 5 boulangeries qui ont fermé. Où j'allais, moi, acheter mon pain. Mais je vous dirais la même chose sur les buralistes. Je vous dirais la même chose sur... les charcutiers, enfin les petits commerçants, tous ont fermé les uns après les autres parce qu'on a laissé, comme ça, comme des champignons, pousser la grande distribution. Elle n'est pas la seule à être responsable, bien évidemment. Il faut arrêter de créer ces hypermétropoles. Il faut aujourd'hui que des usines puissent, en effet, se relocaliser. C'est voilà pourquoi nous sommes pour des zones franches, des zones fiscales qui apportent une préférence aux gens qui souhaitent bien, voilà, se délocaliser. Donc on veut inverser ce courant de centralisation. On voudrait... aujourd'hui, l'inverser dans le sens contraire, pour rééquilibrer nos territoires, pour arrêter cette fracture territoriale qui est terrible entre la campagne et les villes. Et c'est ce qu'a fait Emmanuel Macron depuis qu'il est là. Il oppose tout le monde. Il oppose le retraité avec celui qui travaille, il oppose la campagne avec la ville, il oppose les flics avec les manifestants. C'est en permanence, c'est comme ça. Il oppose les gens qui sont pour le protectionnisme avec ceux qui sont pour le mondialisme. C'est en permanence comme ça. Quand on est président de la République, on rassemble. Je croyais que son acte 2, c'était « je vous ai compris » ou « je vous écoute », « je vous rassemble ». Non, il ne sait pas le faire, il est dans la division, il a créé le chaos, et je crois qu'Emmanuel Macron aura du mal à terminer son mandat.
Alors, moi j'ai une question, puisque vous avez parlé de décentralisation. Quelle est aujourd'hui la doctrine du Rassemblement National sur la façon dont on peut finalement améliorer le processus administratif, territorial en France, sachant qu'il y a un millefeuille qui est extrêmement compliqué, peu lisible pour la plupart de nos concitoyens, un certain nombre d'ailleurs d'élus, même eux, s'en émeuvent. Quelle est votre position aujourd'hui? Quels sont les échelons qu'il faut privilégier? Quels sont ceux qu'il faut éventuellement supprimer? On vous entend finalement assez peu sur ces questions-là.
Alors, Il y a notre situation, notre position aujourd'hui, et il y a celle que nous présenterons lors de la prochaine présidentielle, qui pourra être différente. Nous avons toujours été pour le triptyque, nous, qui était commune, département, État. Donc quelque chose qui ne changera certainement pas, bien évidemment, c'est notre volonté d'un État souverain. Et nous sommes pour une grande Europe des coopérations, une grande Europe des nations. Et nous pensons que c'est ça qui, demain, nous permettra de nous protéger des autres. C'est des pays qui ont des frontières, et je le disais, territoriales, sociales, économiques, parce qu'on ne pourra jamais harmoniser toute l'Europe. Et qu'il faut demain pouvoir réguler aussi, tout simplement, les produits qui rentrent chez vous, mais aussi les personnes qui rentrent chez vous. Donc il faut retrouver un État-nation libre et souverain.
Et quid de la région ?
Ensuite,
si demain vous gagnez des régions ?
Non mais alors, c'est une question que nous posons. Donc notre doctrine, ou je dirais notre position, était de dire qu'il fallait supprimer cet échelon-là, qui avait probablement un échelon trop, comme les comités de communes sont probablement un échelon trop. On a aujourd'hui un millefeuille administratif qui est très compliqué.
Vous êtes pour la suppression des intercommunalités ?
Non, on se pose aujourd'hui un certain nombre de questions. Voilà. Il faut que pour la prochaine présidentielle, on soit clair. On a toujours été, je vous le disais, pour le triptyque commune, département, nation. Est-ce que maintenant la région est indispensable ou est-ce qu'elle ne doit pas être modifiée dans ses compétences ? C'est une vraie question. Moi, je suis conseiller régional à l'Île-de-France. Quand je vois que, honnêtement, je siège dans la commission sécurité, quand je vois que nous finançons des véhicules pour la police nationale ou la gendarmerie, des gilets pare-balles, que nous construisons des commissariats, nous construisons des gendarmeries, que nous allons signer une convention avec le ministère de la Justice pour construire des prisons, il y a confusion des genres totale. Il y a abandon des missions régaliennes de la part de l'État. Et il y a donc transfert d'un certain nombre de compétences à la région, ce qui est tout à fait anormal. Parce que pendant que vous dépensez, pendant que vous renforcez les services de police, et c'est pas moi qui vais m'opposer à cela, hein, j'ai toujours voté pour, parce que je crois qu'ils vivent dans des conditions difficiles, mais c'est pas à la région à le faire, c'est à l'État, c'est au ministère de l'Intérieur à le faire. C'est à lui à assumer sa mission régalienne. Il ne le fait pas. Donc il faut reclarifier les rôles de toutes les collectivités, bien évidemment, revoir ce que la région, ça me paraît difficile de supprimer la région, en effet, demain, mais quel sera le rôle de la région ? Il faut, je crois que là-dessus, oui, reclarifier les rôles. Mais quand vous avez les collèges qui sont tenus par les départements, que vous avez les lycées tenus par les régions, que vous avez l'université qui est tenue par, le ministère de l'Éducation, on peut se poser aussi la question sur l'efficacité, demander si on ne peut pas revoir les choses différemment.
Revoir les choses différemment, mais dans quel sens ? Dans le sens, là, parce que là, ce que vous décrivez, ça serait plutôt une recentralisation de certaines compétences vers l'État, ou est-ce qu'il faut, au contraire, clarifier et peut-être décentraliser encore un peu plus ?
Je pense qu'il faut continuer à décentraliser, il faut redécentraliser plutôt, et qu'il faut redonner du pouvoir, des moyens. Et quand Emmanuel Macron supprime la taxe d'habitation dans les communes, je crois que ce n'est pas ce qu'il faut faire, je crois qu'il faut redonner les moyens aux communes.
Des leviers fiscaux aux communes.
Oui. Mais attention, on ne sait pas en rajouter. Hein.
Non.
On a déjà 48,3% d'impôts, hein, 48,3% du PIB d'impôts. Donc, il s'agit de revoir probablement le schéma de compétences et le schéma d'organisation territoriale. Voilà. Alors, on a quelques pistes sur lesquelles nous travaillons aujourd'hui. Je ne sais pas à moi à les dévoiler. Marine Le Pen a annoncé sa candidature. Certains on trouvait ça prématuré. Moi, je crois que c'est un magnifique signe d'espoir qu'elle est en train d'exprimer à tous ceux qui sont dans la rue. Et s'ils sont dans la rue, je vous le disais, c'est parce qu'ils sont nullement représentés dans les institutions. Mais écoutez, si elle arrive à susciter cet espoir, c'est très bien. Elle va mettre en place un certain nombre de chantiers, de groupes de travail. Et nous allons réfléchir probablement, et elle le disait dans une émission il y a quelques jours, nous allons revoir un peu le schéma territorial qu'il faut mettre en place et surtout rompre restaurer ou réparer, je ne sais pas comment, guérir cette fracture territoriale qui est insupportable parce qu'aujourd'hui, en effet, il y a la campagne d'un côté et puis il y a les hypermétropoles. Voilà. Et je crois que c'est extrêmement...
Dans lequel on produit la richesse et aujourd'hui qui sont le creuset de la croissance française.
C'est terrible. Mais à la campagne, vous ne vivez plus, quoi. Vous ne vivez plus à la campagne. c'est catastrophique. Les paysans sont totalement abandonnés. Je vous le disais, le commerce a disparu. Le petit café du coin qui permettait le tissu social, le réseau social,
le
lien social, tout ceci a disparu, bien évidemment. Les paysans n'arrivent même plus aujourd'hui à avoir un retour sur le produit qu'ils produisent. C'est terrible pour les producteurs laitiers, c'est terrible pour les éleveurs. On le voit, la grande distribution. On a créé une loi, qui est la loi alimentaire.
On vous a bien entendu sur la grande distribution. Mais...
Oui, non, mais je vous parle de cette loi qui est quand même...
Qui avait
pour objectif d'augmenter à peu près 2000-2500 produits grand public de... Les 15%, on a augmenté les prix de 15%, les prix publics, et la marge était censée être redistribuée auprès des agriculteurs. Rien du tout. La grande distribution a gardé tout ça dans les poches, et on a un paysan tous les trois jours qui met fin à ses jours parce qu'il n'en peut plus, il est au bout du rouleau. Bien écoutez, je crois qu'il faut y remédier, et la seule personne capable d'apporter une réponse et une alternative, c'est Marine Le Pen.
Merci Jeanlin Lacapelle, député européen, membre du bureau national du Rassemblement national. Merci Arnaud Benedetti, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. C'était l'émission « Et si on en parlait ?» consacrée aux enjeux des élections municipales. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission. À très bientôt, vous êtes sur Radio Orient.
Et si on en parlait ? Du temps, de l'information, des explications. Une émission présentée par Alexis Bachelet.